Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, 8 mars 2019, nous allons vous présenter des programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos telles que l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le ministre de la Santé a reçu le prix international de la santé. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a visité le camp de réfugiés palestiniens en Jordanie. La gestion du conflit en Indonésie s'améliore, a dit l'expert du Royaume-Uni. Garuda Indonesia desservira la route Jakarta-Nagoya. Pour la promotion touristique, le bus de Merveilleux d'Indonésie circulait sur la route principale de Berlin. Les livres indonésiens se vendent bien au Brunei. Voici le bulletin complet. La ministre de la Santé, Nila Muluk, a reçu le prix Home Lecture 2019 de l'Académie d'Ophtalmologie Asie-Pacifique, APAO, pour sa contribution au développement de la santé mondiale et son soutien au programme de soins de santé oculaire dans la région Asie-Pacifique. Le président de l'APAO, Charles N.G. McGee, dans un communiqué de presse du ministère de la Santé reçu à Jakarta jeudi, a déclaré que APAO était fier de la performance et de dévouement de Mme Nila Muluk en tant qu'ophtalmologue et a réussi à devenir la ministre de la Santé en Indonésie. L'Académie d'ophtalmologie Asie-Pacifique reconnaît la contribution du rôle actif de Nila Muluk, entre autres comme membre de la Commission de la santé maternelle, du nouveau-né et de la santé infantile de l'OMS, membre du conseil exécutif de l'OMS et le membre de Board It Forum. En outre, on estime également que Nila Muluk a réussi à encourager l'accès aux services de santé dans les régions isolées et les îles. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a visité des camps de réfugiés palestiniens à Amman, en Jordanie, dans le cadre d'activités de soutien au peuple palestinien. Accompagnée du commissaire général des Nations Unies pour les réfugiés de Palestiniens, UNRWA, Pierre Krahenbul, la ministre Retno a rencontré des étudiants de l'école de New Amman Camp. Dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères, reçue à Jakarta jeudi, on a déclaré que la ministre indonésienne des Affaires étrangères dialoguait et encourageait les étudiants qui sont membres du Parlement de l'école. Le parlement d'école est formé dans le but de renforcer les valeurs d'humanité, la démocratie et la compétence sociale des étudiants par leur rôle actif dans la gestion des écoles. L'école visitée par la ministre indonésienne des Affaires étrangères est l'une des 171 écoles créées dans divers camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, pour répondre aux besoins d'environ 120 21 000 étudiants. L'expert britannique en relations internationales, Timo Kivamaki, a déclaré que la prévention est le moyen de résoudre les conflits en Indonésie, y compris dans le Kalimantan occidental, amélioré grâce à une bonne gestion des conflits. Cela a été dit par le professeur de l'Université de Bath lors du séminaire international organisé jeudi au campus polytechnique de Pontianak, Kalimantan occidental. Selon Kivamaki, en général, après la Seconde Guerre mondiale, la région de l'Asie de l'Est est sujette aux conflits qui nécessitaient une prévention et un bon traitement. Il a déclaré que lors de chaque mise en œuvre des élections, il y avait le potentiel de conflit. Mais s'il n'y avait pas d'élections, il serait plus difficile de gérer les conflits existants, car il n'existait aucun processus démocratique visant à choisir les meilleurs dirigeants. L'Université de Bath au Royaume-Uni, avec la fondation du Centre Al-Qadri, le réseau indonésien d'études sur le conflit et la paix, et le gouvernement de la province du Kalimantan occidental ont organisé un séminaire international pour examiner comment construire la paix lors de l'élection de 2019. La compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia ouvrira la route Jakarta-Nagoya. Cette nouvelle route sera desservie à partir du 23 mars 2019. Ce vol utilise une flotte d'Airbus A330 de 36 places en classe affaires et de 186 places en classe économique. Le président directeur de Garuda Indonesia, Ari Ashara, a déclaré dans une déclaration écrite vendredi que l'ouverture de la ligne de vol était conforme au programme du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'amélioration des relations commerciales entre le Japon et l'Indonésie. Il a dit comme la quatrième plus grande ville du Japon et est connue comme l'une des villes plus préventées industrielles et la fabrication au Japon, Nagoya, qui est située dans la préfecture d'Aichi, peut devenir une part de marché potentiel pour Garuda Indonesia. Le bus avec le logo de Merveilleux d'Indonésie et avec des images de diverses attractions touristiques circule sur les rues principales de Berlin et traverse des lieux emblématiques de la capitale allemande. Les images d'attractions touristiques, entre autres, le temple Borobudur, la plage rose de Komodo, Labuan Bajo Nusa Tenggara Est, Gebogan Bali, Gandrung Sewu Banyuwangi, Bromo Jawa Est, Raja Ampat en Papouasie Occidentale et le lac Toba du nord de Sumatra. Don Cardono, l'employé spécial du ministre du Tourisme, chargé des communications et des médias, a déclaré à Antara à Londres jeudi que le ministre du Tourisme Arif Yahya avait également eu le temps de tourner autour de la ville pour prendre le bus dans un design spécial d'objets de tourisme indonésien. Selon Arif Yahya, cette étape vise à attirer l'attention de l'industrie touristique mondiale qui se rassemble à Berlin pour assister au plus grand salon du tourisme au monde, ITB Berlin, du 6 au 10 mars 2019. Des milliers de livres indonésiens ont été vendus au Festival du livre de Brunei en 2019 qui s'est déroulé du 27 février au 5 mars à Bandar Sri Begawan, au Brunei Darussalam. Un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Bandar Sri Begawan a annoncé jeudi que l'ambassade d'Indonésie à Bandar Sri Begawan avait coopéré avec l'Association des éditeurs indonésiens de l'Ouest de Kalimantan, représentée par IAIN Pontianak Press, Top Indonesia, la Bibliothèque Aloy, S9 Press, font la promotion de livres publiés par Kalimantan Occidental au Festival du Livre de Brunei 2019. Les livres produits par des éditeurs locaux indonésiens qui attirent des observateurs, des universitaires et des amateurs d'œuvres littéraires indonésiennes au Brunei sont notamment des livres sur la culture locale, comme résultat de recherches sur la culture ethnique de Kalimantan, les coutumes Malais Sambas et l'histoire des autres tribus locales. Le représentant de l'Association des éditeurs indonésiens IKAPI de Kalimantan Occidental, Fahmi, a déclaré qu'en plus d'apporter des avantages économiques, le livre est également devenu un moyen de diplomatie de la culture indonésienne pour le peuple de Brunei Darussalam. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la menace des nouvelles sanctions pour la Corée du Nord. L'une des causes de l'échec de la réunion à Hanoï au Vietnam entre le président des États-Unis Donald Trump et le chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à la fin du mois dernier, était des sanctions pour la Corée du Nord. Le chef Kim a demandé aux États-Unis à annuler toutes les sanctions, tandis que le président Trump a refusé car il soupçonnait la présence d'installations nucléaires qui ne sont pas encore fermées. Et la Corée du Nord était sous le choc si les États-Unis savaient qu'il y avait encore des installations. La Corée du Nord a fait une déclaration à Hanoï après la réunion par intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, qui a déclaré que la Corée du Nord ne demandait pas seulement la levée partielle des sanctions qu'en échange de la destruction du réacteur nucléaire principal Yongbyon en présence d'observateurs envoyés par les États-Unis. Il semble que non seulement les États-Unis qui ne révoqueront pas les sanctions, mais ce pays considérera de les ajouter à la Corée du Nord. La demande des États-Unis est que la Corée du Nord doive détruire toutes ses installations nucléaires si elle souhaite annuler les sanctions. La Corée du Nord, jusqu'à la réunion, n'est pas menée entièrement le programme de dénucléarisation. Au lieu de se terminer, un rapport a indiqué que la Corée du Nord poursuivait ses activités sur le site de lancement de satellites à Soai. Le rapport apparaît pour analyser les images des satellites. Pourtant, il faut que ce site ait dû cesser toutes ses activités après un sommet avec la Corée du Nord. Les services de renseignement sud-coréens et les instituts de recherche américains ont ajouté si la Corée du Nord était soupçonnée de réaménager le site lancement du missile Tongchang-ri qui devait être détruit lors de la première réunion de Kim et Trump à Singapour l'année dernière. Cette situation qui avait déjà montré une bonne direction semble être entrée dans une situation incertaine pour les deux parties. Nous attendons certainement une bonne situation après avoir rencontré les dirigeants, mais tout reste dans chacun. Est-ce que la Corée du Nord insiste-t-elle toujours pour poursuivre le programme nucléaire? Et Donald Trump n'a pas réduit les sanctions imposées à la Corée du Nord, même si celle-ci a progressivement arrêté son programme nucléaire. Serge Tar, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 8 mars. Le 8 mars 1942, le Pays-Bas s'est rendu au Japon. Après le colonialisme hollandais en Indonésie, qui a duré des centaines d'années, le 8 mars 1942, le Pays-Bas s'est finalement rendu au Japon sans condition, une semaine après que les troupes japonaises aient débarqué à l'île Java. La conquête néerlandaise, qui est maintenant une maison historique, est située dans le complexe de l'aérodrome Suryadharma, district Kalijati, en région Subang. Le 8 mars 1943, Cipto Mangunkusumo, figure de la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie, est décédé. Docteur Cipto Mangunkusumo est une figure du mouvement d'indépendance indonésien. Avec Ernest Dawes Dekker et Ki Hajar Dewantara, il était connu sous le nom de Tigas Rangkai, qui répandait largement l'idée d'un gouvernement autonome et critiquait le gouvernement colonial des Indes orientales néerlandaises. En 1913, le gouvernement colonial l'exila aux Pays-Bas avec ses deux collègues en raison de leurs écrits et de leurs activités politiques. Ils ne revinrent qu'en 1917. Contrairement aux deux collègues de Tigas Rangkai, qui suivirent plus tard des études, Cipto continua de suivre la voie politique en devenant membre du Volksraad. En 1927, à cause de son attitude radicale, il fut banni par le gouvernement colonial à Banda. La dureté du cœur politique de Cipto fut mise à mort le 8 mars 1943. Le 8 mars 1978, la Journée internationale de la femme. Les Nations Unies ont institué la Journée internationale de la femme le 8 mars 1978. La Journée internationale de la femme célèbre des réalisations des femmes dans le monde et appelle à l'égalité des sexes. Cette célébration a débuté vers 1909 à l'occasion de la Journée nationale de la femme aux États-Unis, organisée par le Parti socialiste en l'honneur de la grève des ouvriers de l'habillement en 1909 à New York. En 1910, les sympathisants socialistes se sont réunis à Copenhague et ont créé la Journée de la femme pour rendre hommage au mouvement des droits des femmes et encourager le soutien permettant aux femmes de participer aux élections. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
semua inginku.
Écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Bon rêve » chantée par The Groove. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant une rubrique « Bon Indonésie ».
Sejak video jadi tak audit kris, nu kontinu nu terprogram avec mong Indonesia yang pour le titre Indonesia Jordani akan force la coopération économique. La ministre indonésienne des affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue jordanien Ayman Safadi ont convenu d'encourager les efforts visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays. L'un d'eux est à accroître l'interaction entre les entrepreneurs. Cet accord a été conclu lors de la réunion des deux ministres à Amman en Jordanie mardi dernier. Le ministère des Affaires étrangères, dans une déclaration écrite publiée mercredi, a affirmé que les deux ministres ont discuté d'un certain nombre de questions, entre autres le commerce, les investissements et les interactions entre les deux pays. En ce qui concerne le commerce, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a noté une croissance positive avec la valeur commerciale des deux pays atteignant 299,52 millions de dollars américains en 2018, soit une augmentation de 2% par rapport à l'an 2017. Dans le secteur des investissements, on a également constaté l'augmentation de l'investissement qui atteint 3,8 millions de dollars américains en 2018. Outre le commerce et les investissements, ils ont discuté de tourisme. Le nombre de touristes indonésiens qui se rendent en Jordanie continue d'augmenter pour atteindre environ 40 000 personnes par an. Pour compenser, l'Indonésie a continué à promouvoir pour attirer les touristes jordaniens en Indonésie. Outre sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères jordanien, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a ouvert une formation internationale pour des formateurs sur la planification d'affaires pour les femmes dans le refuge. La signature d'une lettre d'intention entre l'Indonésie et la Palestine concernant la fourniture d'une assistance humanitaire aux Palestiniens liée à la fourniture de dessalement d'eau, de médicaments et de matériel médical a également été faite. Cette formation fait partie du programme indonésien visant à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour l'édification de la nation palestinienne. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné que les femmes jouaient un rôle crucial dans l'édification de la nation. La ministre des Affaires étrangères a déclaré que la construction d'une nation palestinienne n'est pas facile car des conditions favorables sont nécessaires ainsi qu'un soutien international tant dans les domaines de l'économie, du développement et du renforcement des capacités. Par conséquent, le soutien de l'Indonésie à travers la mise en œuvre de ce programme de formation devrait renforcer encore les efforts visant à préparer la Palestine à l'indépendance. L'Indonésie soutient depuis longtemps les Palestiniens, notamment en matière de développement des micro, petites et moyennes entreprises, l'autonomisation des femmes, la bonne gouvernance, le microfinancement et la conservation de l'environnement, qui constitueront une base importante pour le développement des institutions palestiniennes. La ministre des Affaires étrangères a spécifiquement déclaré que l'autonomisation des femmes palestiniennes serait non seulement économiquement rentable, mais renforcerait également l'infrastructure socio-économique palestinienne. Serita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée Louis, chantée par Reza. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel et cette fois nous allons présenter la province d'Aceh. Surtout nous allons visiter la place de Kuala Lumpur. Donc restez toujours avec nous, le service mondial Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Banda Aceh est l'un des régions en province d'Aceh. Son emplacement est la pointe de l'île de Sumatra. Géographiquement, cette région est directement adjacente à l'ouest, à l'est et au nord avec l'océan Indien, la baie Bengala et le détroit de Malacca. Donc il n'est pas surprenant que ce quartier est doté de belles plages. Pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme maritime, nous vous recommandons de visiter la plage à Aceh Besar. L'un d'entre eux que vous pouvez visiter est la plage de Kuala Lumpur. La plage de Kuala Lumpur est située sur le bord de la route nationale Melaboh Banda Aceh. Ces derniers temps, la plage Kuala Lumpur est devenu un favori de nombreux touristes parce que, en plus d'offrir une beauté naturelle, cette place semble également avec une variété d'ornements magnifiques et romantiques autour de la plage. Sur cette plage, vous pouvez trouver beaucoup de beaux endroits à selfie. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à visiter Kuala Lumpur, cette plage est facilement accessible depuis la ville de Banda Aceh. Vous devez voyager environ une heure de la ville de Banda Aceh. Et pour entrer dans la zone de la plage de Kuala Lumpur, vous devez payer un ticket de 20 000 rupiah par personne. Les frais comprennent les frais de stationnement du véhicule. Arrivé à la plage de Kuala Lumpur, vous sentirez la fraîcheur de l'air de la plage, la voûte de la mer bleue et le sable propre. En outre, sur cette plage, vous pourrez profiter de la voûte de parapluies colorés accrochés. Cet endroit devient un lieu de selfie unique pour les visiteurs. Non seulement cela, cette plage offre également un siège depuis le canapé sur la plage qui surplombe l'océan libre. Il y a aussi une balançoire modifiée comme une cage à oiseaux et une balançoire donnant sur le coucher de soleil et un cadre en forme de l'amour et d'autres bibelots. Tous ces ornements deviennent une photo attrayante pour les touristes. En plus de prendre des photos au lieu de photos uniques, sur cette plage, vous pouvez sentir la fraîcheur de l'eau de mer avec une baignade. Vous pouvez également jouer ou vous détendre le long de la plage. La plage de Kuala Lumpur est suffisamment équipée d'installations telles que la salle de bain, parking, lieu de repos et aussi restaurant. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous et au revoir.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Les étoiles chantée par Titi DJ. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la blue suivante, écoutons l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur ayant pour titre Réussissant aux Jeux Asiatiques 2018, l'Indonésie remporte le prix OCHA. Alors restez à l'écoute avec nous sur www.voice.id. Le succès de la tenue des Jeux Asiatiques de Jakarta Palembang en 2018 ne vante pas seulement l'Indonésie. Le Conseil Olympique d'Asie, OCA, en ressent également les effets positifs. Le succès des Jeux Asiatiques 2018 confirme le prestige des Jeux Asiatiques en tant que deuxième plus grand événement sportif au monde après les Jeux Olympiques. Cela a été déclaré par le président de l'OCA, Cheikh Ahmad Al-Falah Al-Sabah, lors de la remise du prix OCA à l'Indonésie dans la 72e réunion du Conseil exécutif OCA à Bangkok en Thaïlande le 2 mars 2019. Le prix OCA pour l'Indonésie a été accepté par le président général du Comité olympique indonésien, Erick Thohir. Selon Erick, ce prix est destiné à permettre à l'Indonésie de voir organiser avec succès les meilleurs Jeux asiatiques et de voir être apprécié du monde entier. Le succès des Jeux Asiatiques 2018 n'est pas seulement sur la mise en œuvre sans honte de la tenue de 40 branches sportives qui sont le plus dans l'histoire des Jeux Asiatiques jusqu'à présent. Ce qui est plus important encore, le succès est également dû à des publications extraordinaires. Grâce à la présence de 864 agences de presse ou médias de 44 pays asiatiques et de 12 pays non asiatiques, 4,5 milliards de lecteurs profitent des nouvelles des Jeux Asiatiques 2018. Ils ont reçu des informations provenant d'environ 16 000 articles publiés lors des Jeux Asiatiques 2018. En Indonésie, 10 683 médias en ligne, 400 magazines, 620 téléviseurs et 3 673 journaux font l'objet de nouvelles des Jeux Asiatiques. Erick Thohir a expliqué, grâce à la publication massive, les Jeux Asiatiques ont reçu des éloges à l'étranger. Ils ont été surpris de voir que l'Indonésie avait pu organiser cet événement sportif en peu de temps. Il est donc confiant et optimiste que l'Indonésie mérite d'être l'hôte des prochains Jeux Olympiques 2032. Serviteur, c'est l'Indonésie encore pour ce soir avec le titre « Succès de la mise en œuvre des Jeux Asiatiques 2018. L'Indonésie remporte le prix OCA. » Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée « Est-ce que je me trompe si je t'aime tellement ?» chantée par Ratu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voiceofindonesia.com. point bonus point ID. Chers amis, nous continuons notre programme avec l'information musicale.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, je vous présente une chanson malaise intitulée Kembang Malate. La chanson de Kembang Malate est une chanson typique de la communauté de Madurès, Java de l'Est. En langue madura, Kembang Malate signifie fleur de jasmin. Créée par Abd Moïd Koei, cette chanson raconte de la beauté des fleurs de jasmin. Dans les paroles, la fleur de jasmin est présentée comme une fleur qui intéresse tout le monde. En outre, les fleurs sont également décrites comme parfumées, frais et naturelles. Cette chanson dit aussi que bien qu'il y ait beaucoup de belles fleurs, mais pas aussi belles que les fleurs de jasmin. Bon, chers auditeurs, voilà la chanson dont le titre est Kembang Malate, chantée par Sinta Aldinata. Bonne écoute!
Chers auditeurs et auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.